Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Virginie Salmen, toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. Et puis à partir de 19h20, dans votre grand débat du Club des Idées, on va prendre de la vitesse. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, c'est ce week-end. La F1 qui revient en force et qui attire de nouveaux spectateurs plus jeunes, plus féminins et qui fait monter les audiences en flèche. Canal+ a enregistré l'an dernier une hausse de 27%. Alors comment expliquer ce regain d'intérêt? On en parlera avec Olivier Panis qui justement a remporté ce Grand Prix de Monaco. C'était il y a 25 ans, quasiment jour pour jour. Également avec le coureur automobile Paul Belmondo. Également avec le directeur général d'Alpine. Avec Julien Febbreau qui commande tous les Grands Prix sur Canal+. Et puis avec Philippe Vandel. Il n'y a pas que les médias qui le passionnent, il est incollable, vous l'entendrez, sur la F1. Rendez-vous donc à partir de 19h20. Juste avant, nous accueillerons Alexandre Malafaï qui nous livrera sa carte blanche, un coup de gueule contre l'inertie de l'Union européenne face à la crise migratoire. Et puis juste avant 20h, on se replongera comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 1994, un film culte reçoit la Palme d'Or à Cannes, c'est l'un de mes films préférés. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Pulp Fiction, ça c'est pour tout à l'heure. D'abord le point sur l'info avec Virginie Salmen. 19h, merci à vous d'écouter Europe 1.
On est venus tous les trois avec le bébé.
Ça fait souffler un petit peu.
Ça reprend vie quoi.
C'est plus pareil, ça fait plaisir.
Premier week-end de déconfinement, nous serons à Nice sur les plages et les terrasses. Attention, les restaurateurs mettent en garde, on profite sans tomber le masque trop longtemps ni jeter aux oubliettes le gel hydroalcoolique. Ils tiennent à leur réouverture complète le 9 juin.
Et on les comprend. Un statut honorifique de mort pour la République annonce Emmanuel Macron, notamment pour les soignants décédés lors de l'épidémie. Nous verrons ce qu'en pensent les infirmiers.
Si votre enfant a pile 18 ans, il va pouvoir bénéficier des 300 euros du pass culture généralisé dans toute la France.
Après 11 jours de violence au Proche-Orient, 243 morts côté palestinien, 12 côté israélien. Les deux camps crient victoire. Décryptage avec notre spécialiste des questions internationales, Didier François.
Et puis en rugby, une belle affiche ce soir pour la petite finale de Coupe d'Europe. Quelques visages connus du côté de Montpellier.
La météo, Anissa Haddadi, dites-nous tout sur notre week-end de la Pentecôte.
Eh bien, c'est un week-end prolongé, instable, Isabelle, avec des ambiances bien différentes en fonction des régions. Dimanche sera la journée la plus agréable. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le début du premier week-end de déconfinement. Et pour certains, effectivement, ça va durer 3 jours.
Et oui, et nous sommes en ligne avec Jean-Gabriel Bourgeois à Nice. Vous avez fait le tour des plages et des terrasses pour partager ce sentiment de liberté retrouvée.
Ah oui, et sur la plage de Galets, malgré les nuages, niçoises et vacanciers sont venus profiter. Un bon bol d'air pour Chloé et sa famille. Elle travaille à l'hôpital de Martigues et ses quelques jours de repos sont libérateurs.
On est venus tous les trois avec le bébé. Il y a 1 an et demi, ça fait souffler un petit peu.
Ça reprend vie, quoi. C'est plus pareil. Ça fait plaisir.
Le plaisir aurait été encore plus grand si le soleil était de la partie. Ces étudiants niçois ont trouvé la parade.
En fait, on voulait bronzer à la base, mais là, du coup, on ne peut pas bronzer.
Et du coup, on va faire un apéritif.
Un apéro en terrasse, juste en face, sur la promenade des Anglais. Francis tient une petite brasserie depuis 15 ans. Il se frotte déjà les mains.
L'autre jour, le premier jour, le 19, c'était... À qui le premier arriverait sur la terrasse, tout le monde voulait consommer. Ça s'annonce bien, le temps sera mitigé, paraît-il. Mais bon, on espère qu'il se trompe une fois de plus.
Alors, pas de pluie au programme ce week-end de Pentecôte ici à Nice. 3 jours pour partager un verre en terrasse ou juste se poser face à la Méditerranée, mais toujours jusqu'à 21h.
Jean-Gabriel Bourgeois à Nice pour Europe 1.
Alors on profite des terrasses, oui, mais sans faire n'importe quoi.
Et oui, c'est en substance la mise en garde des représentants des restaurateurs après des scènes de débordement dans plusieurs villes. Les professionnels de la restauration ne veulent pas mettre en péril la réouverture complète de leurs établissements le 9 juin prochain, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est le message que les principales organisations patronales de l'hôtellerie-restauration ont voulu faire passer très vite parce que sinon, ce sont vers de nouvelles désillusions que se dirigent les bars et les restaurants, prévient Didier Chenet, président du groupement national des indépendants.
J'enjoins tous nos professionnels de respecter sur les terrasses la jauge à 50%. Vous interdisez toute consommation debout. C'est interdit, il faut le respecter. Je sais que c'est difficile, je sais que nous ne sommes pas des policiers, mais je le redis encore une fois, c'est à la fois à nos professionnels et à nos clients que nous lançons ce cri d'alarme, respecter le protocole. Il en va de l'ouverture de nos restaurants.
Parce que la prochaine étape, ce sera effectivement le 9 juin, avec un couvre-feu à 23h, des terrasses accessibles entièrement et des restaurants enfin rouverts à 50% en intérieur. Et l'objectif, c'est bien sûr d'éviter que se multiplient les scènes de terrasses bondées, comme on a pu le voir à Rennes notamment, ou des décisions préfectorales d'interdiction de vente d'alcool sur la voie publique entre 18 et 21h, comme cela vient d'être le cas dans la Somme et en Indre-et-Loire.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, sur les routes ce vendredi de départ en week-end prolongé est classé orange dans toute la France et rouge en Île-de-France et dans la région lyonnaise.
Europe 1, 19h04, nouvelle accélération de la campagne vaccinale en vue. Tous les adolescents de 16 à 18 ans pourraient avoir droit au vaccin à partir du mois de juin, d'après le professeur Alain Fischer qui est chargé de la campagne vaccinale.
Et le Premier ministre Jean Castex a annoncé, lui, hier que la vaccination serait ouverte à tous dès le 31 mai, donc c'est lundi dans 10 jours.
Emmanuel Macron annonce la création d'un statut de mort pour le service de la République, notamment pour les soignants décédés à cause de l'épidémie.
Ça permettra aux enfants de ces soignants d'être considérés comme pupilles de la République. Mais qu'en pensent les soignants? Réaction du porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, Thierry Amouroux.
C'est une bonne chose déjà pour les personnes concernées. C'est un message symbolique envoyé à l'ensemble des soignants. Mais malgré tout, ça reste l'arbre qui cache la forêt. La vraie demande des soignants est la reconnaissance en maladie professionnelle des soignants victimes du Covid. Vous avez 125 000 soignants qui sont concernés. La plupart contaminés lors de la première vague parce que nous n'avions pas assez de masques, de gants, des sacs poubelles en guise de surblouse. Nous, on s'est engagés sans compter. Notre demande, c'était d'assurer la protection des 125 000 soignants frappés par le Covid, dont on refuse la reconnaissance en maladie professionnelle.
Thierry Amouroux, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, au micro européen de Romain Hougues. La France va donner 30 millions de doses de vaccins aux pays les plus pauvres d'ici la fin de l'année. En Allemagne, Angela Merkel vient de prendre le même engagement.
Et puis, autre information importante, tous les jeunes qui ont 18 ans vont pouvoir profiter de 300 euros pour acheter des billets de concert, des livres, des places de cinéma ou des objets culturels.
Oui, 800 000 jeunes vont bénéficier de ce pass culture généralisé que le président de la République est allé présenter cet après-midi dans la Nièvre avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, Jean-Rémy Baudot.
Oui, ce pass culture, c'était une promesse du candidat Macron. Il y a eu 2 ans d'expérimentation, notamment dans la Nièvre. Il est donc généralisé. 300 euros pour les jeunes de 18 ans, sans condition de ressources. Une aide qui sera complétée dès 2022 par 200 euros supplémentaires pour les collégiens et les lycéens. À terme, en fait, les ados français auront donc 500 euros pour s'acheter des billets de concert, des entrées au musée, des biens culturels, des disques, des livres ou des instruments. Mais tout ça dans des magasins. Emmanuel Macron qui a rappelé l'importance du modèle français sur la culture. Et d'ailleurs, pour lutter contre le poids des sites comme Amazon, il a fait une autre annonce, une aide pour l'envoi de livres pour les libraires indépendants, l'idée que tout le monde puisse jouer à armes égales.
On a une forme de concurrence qui se crée maintenant, nouvellement, où certains grands groupes ont la possibilité de vous envoyer quasiment sans frais votre livre, quand votre libraire indépendant, lui, doit vous faire payer les frais postaux. Il faut qu'il y ait un prix unique de tous les livres, le livre qu'on va acheter à la librairie comme le livre qu'on reçoit à la maison. Et ce prix unique du livre a été une force du modèle français, il faut la maintenir et la préserver.
Voilà, évidemment tout cela a un coût, 80 millions d'euros pour le pass culture cette année selon l'Élysée. Rappelons que depuis le début de la pandémie, l'État a dépensé 11 milliards d'euros pour soutenir la culture. Une nouvelle enveloppe de 148 millions vient d'ailleurs d'être annoncée pour soutenir les cinémas, les théâtres et le spectacle vivant, tout ce qui a rouvert depuis mercredi.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. En bref, un juge d'instruction a été saisi d'une enquête pour tentative d'assassinat terroriste en Belgique après la fuite d'un militaire d'extrême droite probablement armé, introuvable depuis 4 jours.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, les Palestiniens et les Israéliens crient victoire après 11 jours de violence et un cessez-le-feu. Décryptage dans un instant avec notre spécialiste Didier François.
Et puis la petite Coupe d'Europe en rugby avec des stars du ballon ovale à l'affiche ce soir.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h09, c'est la suite du journal de Virginie Salmen sur Europe 1. Un cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza la nuit dernière à 2h du matin. Les bombardements israéliens et les tirs de roquettes du Hamas se sont donc arrêtés après 11 jours d'affrontements meurtriers.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Mais ce qu'il y a d'étonnant, donc, c'est que malgré les morts et les destructions dans la bande de Gaza, les Palestiniens crient victoire.
Bah effectivement, on a vu partout se multiplier des scènes de liesse dès l'annonce de l'arrêt des combats, et pas seulement à Gaza d'ailleurs, hein, mais dans tous les territoires palestiniens, où la nuit s'est embrasée avec des feux de joie, des feux d'artifice. Alors, il y avait évidemment dans ces réactions une sorte d'exultation mêlée au soulagement d'avoir survécu à une campagne de frappe aérienne particulièrement intense, parce que l'armée israélienne a riposté de manière extrêmement ferme à la pluie de roquettes tirées par le Hamas. Plus de 4300 engins de toute portée, toute puissance, ce qui est une première. Les représailles ont donc été à la hauteur et le mouvement islamiste a payé militairement très cher cette provocation. Ces infrastructures sont en ruine, à commencer par ce fameux réseau de tunnels creusé sous Gaza, que les Palestiniens ont surnommé le métro. Un nombre considérable de ces commandants, et plus important d'ailleurs, de ces artificiers ont été tués. Mais effectivement, paradoxalement, le Hamas ne considère pas pour autant avoir perdu cette confrontation, bien au contraire, parce que sur le fond, ces pertes vont être remplacées. Alors qu'en revanche, le mouvement islamiste a réalisé tous ses objectifs de guerre dès le premier tir de missile sur Israël. Il s'est reconstitué un énorme capital politique parce qu'il est aujourd'hui considéré par la majorité des populations palestiniennes et arabes comme le seul véritable défenseur de Jérusalem face à la volonté d'annexion israélienne, ce qui pour lui n'a pas de prix.
Alors ce qui est au moins aussi étonnant, c'est que Benjamin Netanyahou crie lui aussi victoire.
Alors oui, mais parce que de son point de vue, c'est aussi une petite victoire. Il y a quelques jours, rappelez-vous, avant les hostilités, il venait d'échouer à former un nouveau cabinet autour de sa personne. Et il était donc sur le point de quitter le devant de la scène politique. Seulement, face à la crise, ses opposants se sont révélés incapables de surmonter leurs divergences pour bâtir un gouvernement d'union nationale. Le conflit l'a donc remis au centre du jeu. Alors certes, provisoirement, mais tout de même.
Donc une victoire politique. Merci beaucoup Didier François.
L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans ce journal de 19h. Et puis vous vouliez nous parler de rugby aussi Virginie, parce qu'avant la grande finale de Coupe d'Europe qui opposera Toulouse à La Rochelle, il y a une petite finale.
Oui, la Challenge Cup ça s'appelle. C'est ce soir à 21h, Leicester-Montpellier. Simon Rubin, on va retrouver des têtes connues du côté de Montpellier.
Absolument, puisque l'entraîneur de Montpellier n'est autre que Philippe Saint-André, ancien manager des Bleus. On retrouve également Guilhem Guirado, ancien capitaine du 15 de France. Autre joueur qui a apporté le maillot bleu, Fulgence Ouédraogo, 39 sélections, donc 3 hommes forts du Mondial 2015. On a aussi Anthony Boutier, qu'on a vu lui beaucoup plus récemment avec le 15 de France de Fabien Galthié. Voilà de l'expérience, des têtes connues effectivement. Philippe Saint-André a de quoi être optimiste.
Aujourd'hui, je sens les joueurs prêts. Pour nous, c'est l'opportunité dans une saison compliquée d'avoir un bol d'oxygène. Déjà, je pense qu'on est à 80 minutes de faire, j'ai envie de dire, une très bonne saison. Parce que quand tu gagnes un titre, pour moi, c'est toujours une très bonne saison.
Et il l'évoque, Philippe Saint-André, pour les Montpelliérains ce soir, l'enjeu, c'est de rattraper un peu cette saison gâchée, ratée à cause de l'inconstance en championnat. Des Montpelliérains qui pourraient remporter pour la deuxième fois ce challenge européen et puis surtout pour le rugby français. Il s'agirait presque de parler d'hégémonie dans le cas d'une victoire de Montpellier ce soir en attendant celle de Toulouse ou La Rochelle dans la grande compétition européenne demain.
Merci Simon Rubin, la histoire Montpellier c'est donc à 21h.
Dans le journal de Virginie Salmen. Merci beaucoup Virginie.
Bonsoir.
Anissa Haddadi, alors comment s'annonce ce long week-end de la Pentecôte ?
Alors on va le faire étape par étape. Demain samedi, le week-end va commencer avec du vent fort pour presque tout le monde, sauf le sud-est. Voilà, on aura des rafales jusqu'à 70 km/h encore sur certaines villes. Le sud-est est à l'abri et au sec puisque les averses vont toucher les trois quarts de la France encore demain. Dimanche sera la journée la plus agréable du week-end puisque le temps redevient calme et sec avec des éclaircies. En Bretagne, Normandie et sur les Hauts-de-France, là, le ciel est un petit peu plus couvert et la journée sera encore venteuse. Lundi, férié pour les plus chanceux, et bien là, les averses sont de retour. Des Pays de la Loire aux Ardennes, en passant par la région parisienne, le lundi de Pentecôte sera agréable et ensoleillé. Ailleurs, ça sera humide.
Et on vous retrouve lundi ou pas ?
Avec grand plaisir.
Ah, chouette. Merci Anissa, excellent week-end à
bon
vous
week-end.
Et à lundi. 19h14 sur Europe 1. Dans un instant, votre grand débat, le retour en grâce de la Formule 1 à la veille du Grand Prix de Monaco. Les jeunes, notamment, ont découvert ce sport qu'ils aiment presque autant, voire plus que le foot. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Alexandre Malafaille qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Alexandre. Vous adressez un coup de gueule contre l'Union européenne et son inertie face à la crise migratoire. Alors votre micro n'est pas ouvert Alexandre, peut-être qu'il faut que vous changiez de place. je vous propose, je vais meubler, on a l'habitude, c'est pas grave, il y a des micros parfois qui ne fonctionnent pas. Voilà, celui-ci marche. Donc Alexandre, ce soir, vous adressez un coup de gueule contre l'Union européenne et son inertie face à la crise migratoire.
Absolument, ce n'était pas du sabotage. Hein, bien sûr. Voilà, oui, un vrai coup de gueule, Isabelle, car quoi qu'en dise Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux affaires européennes, une crise migratoire majeure est bien, selon moi, en préparation. Et une fois de plus, l'Union européenne va se faire surprendre. Ce qu'on a vu ces derniers jours sur les côtes du Maroc, avec l'enclave de Ceuta, peut s'apparenter à ce qu'on pourrait dire la partie visible d'un gigantesque iceberg migratoire. Je note au passage qu'aucune leçon de la crise sanitaire n'a été tirée. Ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est le même principe. On ne se prépare à rien et en fait, après, on prend tout en pleine poire. Et en matière migratoire, pardon, ce n'est pas la première fois, hélas. Alors certes, ce qu'on appelle la pression migratoire a baissé depuis un an, hein, moins 13%, mais c'est logique, pour une fois, on a vraiment fermé les frontières. Et vous verrez, c'est temporaire, et dès que les frontières rouvriront, ça repartira, comme en 14.
Mais vous êtes à ce point-là inquiet, Alexandre.
Écoutez, Isabelle, je crois qu'il faut vraiment regarder la réalité en face quand même, et le fait simplement de prolonger quelques courbes. La démographie africaine est galopante. En 2050, hein, pour fixer les esprits, la population de l'Afrique sera 4 à 5 fois plus importante que celle de l'Union européenne. On parle de 2 milliards d'habitants. Ensuite, les États africains sont soit trop fragiles, soit trop pauvres, soit trop corrompus, parfois les trois à la fois, et pour tenir leur population, ils n'y arrivent pas. Enfin et surtout, les répercussions économiques de la crise sanitaire a gonflé les poches de cette misère extrême un peu partout sur le continent. Ce sont des bombes à retardement humanitaire qui risquent d'exploser à tout moment. Car en fait, que croyez-vous ? Entre crever de faim sur place ou tenter leur dernière chance en Europe, ils vont faire quoi ces dizaines de millions de malheureux ?
Oui, sombre perspective en effet, mais pourtant il y a bien un plan européen en préparation.
Alors comprenons-nous bien, je ne dis pas que la Commission ne travaille pas ce sujet, c'est d'ailleurs l'une de ses compétences. Au passage, pour faire sourire vos auditeurs ou pas, je précise qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur de l'Union Européenne, mais un commissaire à, tenez-vous bien, la promotion de notre mode de vie européen à qui les questions migratoires sont rattachées. Ça ne s'invente pas. Bon, bref. Mais en vérité, ce n'est pas la Commission qu'il faut blâmer. Elle fait ce qu'elle peut, la Commission. Ce sont les 27 États membres qui sont incapables de se mettre d'accord. Et ça, sur un tel sujet, c'est un vrai scandale. Ça fait plus de 6 mois qu'un pacte européen qui vaut ce qu'il vaut sur la migration et l'asile est sur la table, mais aucun pays ne s'y intéresse vraiment, chacun étant le nez plongé dans le guidon de sa gestion de crise sanitaire. Vous savez, l'UE, ça n'est que la somme de nos médiocrités nationales, c'est dramatique.
Et alors, comment expliquez-vous, Alexandre, ce désintérêt pour la question ?
Bah, vous avez vu de Paris, et surtout encore plus vu de Bruxelles, de Berlin et même de Varsovie, l'Afrique, c'est quand même très loin. Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui pratiquent cette politique de l'autruche sur ces questions, que les propos d'un vieil ami général d'armée, grand connaisseur de l'Afrique, qui me disait que si l'Europe ne s'occupe pas de l'Afrique, c'est l'Afrique qui s'occupera de l'Europe. Eh bien, je crains que ce moment ne soit venu. Alors, les amis à Bruxelles et un peu partout, il faut réagir.
Écoutez, Alexandre Malafaï, les amis à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette carte blanche, Alexandre Malafaï. Bonne soirée.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la Formule 1 en passe de devenir le nouveau sport préféré des Français. Vous serez nombreux ce week-end devant le Grand Prix de Monaco. À tout de suite.
It's lights out and away we go.
Eh bien, ça y est, hein. Ça y est, on est dans l'ambiance de ce grand débat. C'est l'une des trois courses les plus prestigieuses au monde, l'une des plus anciennes aussi. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, 5e manche du championnat du monde qui se tient ce week-end. L'occasion pour nous ce soir de nous intéresser au renouveau de la F1. Un renouveau que l'on doit notamment à la série documentaire de Netflix Formula 1, Pilote de leur destin, série qui nous emmène dans les coulisses des Grands Prix. Elle a cartonné, elle a amené un public nouveau à se passionner pour ce sport. On en parle ce soir avec mes invités que je suis ravie d'accueillir. L'ancien pilote Olivier Panis qui justement a remporté ce Grand Prix de Monaco, c'était il y a 25 ans quasiment jour pour jour. En ligne également Paul Belmondo, pilote aussi qui a également fait un passage en F1. Julien Febbreau, le commentateur de la Formule 1 sur Canal+. Philippe Vandel, que vous connaissez tous, présentateur de l'émission Culture Média, bien sûr tous les matins sur Europe 1 entre 9h et 11h. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il est passionné de F1. Et puis nous sommes aussi en ligne avec le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accompagner ce soir en direct sur Europe 1.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors je le disais, voilà que les Français en particulier se passionnent de nouveau pour la F1 le 28 mars dernier devant le Grand Prix de Bahreïn. 1,89 million de spectateurs devant leur téléviseur, record absolu pour la F1 sur Canal+. Julien Febbreau, vous commentez les Grands Prix depuis 9 saisons sur Canal. Vous êtes le témoin direct de cette nouvelle dynamique, impulsée notamment par Liberty Media, qui a racheté les droits de la F1 en 2017. Qu'est-ce qui a changé, Julien ?
La F1 a évolué et elle a attiré un nouveau public. Je pense que, bah, j'espère déjà que la manière dont on commente à Canal a permis aux gens de se passionner pour la F1. Et puis, les gens réalisent à travers ce sport qu'il y a une prise de risque très importante des pilotes. Ils ont pu malheureusement le constater dans certaines circonstances, soit dramatiques ces dernières années, soit très graves, mais sans trop lourdes conséquences pour Romain Grosjean l'année dernière. Donc forcément, que l'on le veuille ou non, eh bien, l'aspect sportif est une chose, l'aspect risque en est une autre, et je suis pas surpris de voir que les gens aujourd'hui bien se passionnent pour cette jeune génération de pilotes qui prennent des risques, de gros risques, pour rouler à des vitesses folles sur des circuits, et les gens eh bien tremblent avec les héros et ces sortes de gladiateurs que sont les pilotes de Formule 1.
Alors, Philippe Vandel, c'est peu dire que la F1, c'est votre passion. Hein. Vous avez même été speaker officiel du Grand Prix du Castellet sur le circuit Paul Ricard. C'est vrai que vous avez jamais raté un Grand Prix, Philippe ?
J'ai jamais raté un Grand Prix. J'ai même, je crois, jamais raté une séance d'essai. Je me lève même quand la saison démarre par le Grand Prix d'Australie à 4h du matin ou à 5h du matin pour regarder les essais libres de vendredi qui n'intéressent strictement personne. Je veux rajouter autre chose sur la question que vous posiez à Julien Febraud. Il y a quelque chose qui a changé dans le succès des Grands Prix de F1. Il y a un petit creux parce que les Français qui gagnaient avec Prost et puis Renault ont disparu de la Formule 1, mais là, ils reviennent avec Alpine. Et puis aussi, les Grands Prix étaient diffusés sur sur TF1. C'est pas faire injure à TF1 de dire que c'est une chaîne gratuite, donc financée par la publicité. Et là, sur Canal+, c'est payant, certes, mais il n'y a pas de pub. Donc, il y a tout le Grand Prix. Et ça crée une dramaturgie qui n'existait pas auparavant.
Et il y a Julien Febraud. Olivier Panis, vous reconnaissez que ça avait une image un peu vieillotte, hein, un peu soporifique, les courses du dimanche devant lesquelles notre grand-père s'endormait, la F1.
Je ne sais pas si je peux dire ça en attendant... C'est l'époque qui a changé, hein, les réseaux sociaux, vous avez parlé de la série Netflix qui est magnifique, je pense qu'on fait découvrir aux jeunes d'une façon différente ce qu'on pouvait leur faire découvrir auparavant. Maintenant, la prise de risque, elle est la même, les enjeux sont les mêmes, il y a quand même pas mal de similitudes. Maintenant, je suis ravi que les jeunes s'intéressent à la Formule 1, je suis ravi qu'on en parle de plus en plus, et puis ravi qu'il y ait un constructeur français qu'on espère va jouer la gagne rapidement.
Justement, on va avoir Laurent Rossi dans un tout petit instant. Je voulais juste vous entendre, Paul Belmondo, ça doit vous faire plus plaisir, vous aussi, ce regain d'intérêt, ce renouveau pour la F1, en particulier chez les jeunes aujourd'hui.
Oui, il y a un changement. C'est vrai que du côté franco-français, c'est vrai qu'on a eu une époque vraiment bénite et gâtée parce qu'il y en avait jusqu'à 7 pilotes français en Formule 1 et en plus avec des résultats, avec Alain Prost, avec Jean Alési, avec Olivier. Et puis c'est vrai qu'après, ça a un petit peu baissé. Et c'est vrai que malheureusement, les pilotes français n'avaient plus l'occasion d'avoir de voitures pour s'exprimer, ce qui est le cas maintenant. Et je pense que la victoire de Gasly, elle est très importante, en tout cas dans l'intérêt aujourd'hui, parce que l'histoire est belle, un pilote qui se fait virer, qui se retrouve dans une petite équipe et qui gagne un Grand Prix. Je pense que n'importe quel scénariste aurait rêvé d'écrire cette histoire. Donc je pense que toutes ces choses, toutes ces aventures qu'il y a font que le public s'intéresse de plus en plus à la F1. Comme l'a dit Olivier, je pense que Netflix aussi, d'avoir amené un côté plus scénarisé, on va dire, à la Formule 1. Et puis il ne faut pas oublier Canal+, par la qualité des images qu'ils donnent, qu'ils retransmettent, les sujets, les documentaires, la qualité des intervenants, voilà, avec Julien, avec Franck, avec Jacques Villeneuve, ou Margot Laffitte, fait qu'aujourd'hui, la F1 a donné beaucoup plus d'intérêt, en tout cas pour une nouvelle génération.
Julien Febraud, comment est-ce que cet intérêt, on le quantifie ?
Alors on le quantifie par les audiences, évidemment. C'est vrai qu'on est heureux de voir que le public et les abonnés répondent, on va dire, au-delà du million de téléspectateurs à chaque Grand Prix et parfois encore plus. Moi, je le mesure beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel j'attache de l'importance aujourd'hui. Et je vois à quel point les abonnés sont aussi présents sur les réseaux avec lesquels j'échange beaucoup. Et il y a un vrai engouement, il y a une passion, il y a une ferveur tous les dimanches. J'ai l'impression qu'on est très nombreux, mais qu'en même temps, on est un petit club de passionnés. Et un club dans lequel on accepte tout le monde, ceux qui connaissent moins, ceux qui viennent de découvrir, ceux qui sont férus et qui sont boulons rondelles, comme on dit.
Boulons rondelles, voilà, je ne connaissais pas l'expression.
Oui, là, boulons rondelles, les mains dans le cambouis, si vous voulez. Ouais. Mais voilà, je le sens réellement. Et il y a beaucoup de bienveillants, je trouve, autour des pilotes. On est une communauté et on est un des sports les plus bienveillants les uns envers les autres. Bien sûr que certains sont fans d'Hamilton, d'autres de Charles Leclerc, etc. Mais il y a une communauté très jeune. Et je pense aussi que le confinement a joué un rôle, parce qu'au moment du premier confinement, notamment, beaucoup beaucoup de pilotes de Formule 1, jeune génération, ont joué aux jeux vidéo de Formule 1 et ont streamé leurs parties sur les réseaux sociaux. Et les jeunes sont allés les voir et se sont dit, mais finalement, ces pilotes de Formule 1, oui, ils font quelque chose d'exceptionnel quand ils sont au volant de leur monoplace, mais en même temps, c'est des jeunes très accessibles qui jouent comme nous aux jeux vidéo. Et donc, on se sent plus près d'eux. Et ça, ça a beaucoup joué aussi.
Laurent Rossier, je rappelle que vous êtes le tout nouveau directeur général d'Alpine. Depuis cette année, vous chapeautez donc les différentes activités de la marque Alpine qui, sur les circuits, a remplacé Renault. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Le Grand Prix de Monaco, c'est dimanche. C'est un Grand Prix mythique, évidemment, celui que tout le monde veut gagner.
Oui, absolument. C'est une étape légendaire du circuit. Pour nous, c'est en plus pratiquement un deuxième Grand Prix national, donc beaucoup d'espoir. En plus, un Grand Prix assez particulier qui peut réserver beaucoup de surprises et des très bonnes. J'étais bien sûr devant mon poste pour la victoire d'Olivier et ça fait partie des grandes légendes de Monaco.
Vous savez quoi, on va y revenir dans un tout petit instant. On va poursuivre notre débat dans une minute sur Europe 1 et on va justement s'intéresser à ces jeunes pilotes français notamment qui montent et qui participent au succès de la F1. A tout de suite.
Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois de sa carrière.
Et oui, c'est la suite de notre grand débat du Club des Idées ce soir sur Europe 1. On parle de F1, l'épreuve de Formule 1, oui, l'épreuve la plus prestigieuse du calendrier, celle que tout pilote rêve d'accrocher à sa combinaison. C'est ce week-end, le Grand Prix de Monaco, l'occasion pour nous de revenir sur ce nouvel engouement de la F1. Avec moi, toujours pour ce débat, l'ancien pilote Olivier Panis, qui justement a remporté ce Grand Prix de Monaco il y a 25 ans. En ligne également, Paul Belmondo, pilote également. Julien Febbro, commentateur de la Formule 1 sur Canal+. Philippe Vandel, animateur de Culture Média et passionné de F1, et le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi. Alors, ce renouveau de la F1, on en a parlé, on le doit en partie à cette fameuse série documentaire sur Netflix. Je sais que vous l'avez regardée, Olivier Panis, elle est assez incroyable. Hein. Elle a réveillé des passions insoupçonnées chez les abonnés. Hein.
Oui, je pense, honnêtement, même moi, je l'ai regardé avec attention. C'est la première fois que, comme disait Paul, hein, que c'est un peu, il y a un peu un scénario et on fait voir les coulisses, on fait voir un peu les atouts politiques, les discussions entre teams principaux, entre la bagarre pour les moteurs qui sont souvent les meilleurs. On veut le meilleur moteur dans sa voiture. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses réel que j'ai vécu, qui à notre époque était quand même un peu plus secret, peut-être moins, on l'a moins fait voir, mais c'est vraiment une réussite. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, rigolo, et puis ça apprend aux jeunes à découvrir ce qu'est ce monde de la Formule 1 qui est quand même très élitiste et très secret. Donc, je pense que aussi les jeunes qui découvrent aujourd'hui la Formule 1 le trouvent un peu plus accessible et en fait se rendent compte que derrière ces pilotes, il y a énormément de choses.
Oui, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à la F1, il faut expliquer que ce n'est pas du tout une série pour initier. On parle assez peu finalement de technique ou de technologie. On plonge vraiment dans les coulisses. C'est ça qui est passionnant, hein, Paul Belmondo. Un peu les rivalités entre les pilotes dans les paddocks, l'angoisse des équipes, les coups bas. Je sais que vous l'avez vu cette série, hein, Paul Belmondo.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est ce que je disais, quand je disais que c'était scénarisé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment été cherchés dans la personnalité de chaque caractère et chaque acteur de la Formule 1, une personnalité qui était intéressante et qui donnait du vivant justement à cette série. On n'est pas resté simplement sur le résultat pur et dur de la course, et c'est ça qui est fantastique. On voit le caractère de Christopher Horner, justement, qui n'est pas quelqu'un de forcément très sympathique, mais en même temps qui joue un petit peu sur un côté glamour. On voit la souffrance aussi des pilotes, justement, des rivalités entre eux. Et tout ça, justement, est vraiment très intéressant et donne envie. Plus, on voit les jeux de politique sur les moteurs, sur justement la décision, je crois que c'était dans la première ou la deuxième série de Red Bull d'arrêter avec Renault, où pourtant ils ont gagné 4 titres de champion du monde. Les seuls 4 d'ailleurs qu'ils ont gagné, c'est avec Renault. Donc voilà, donc c'est aussi de montrer ce côté très très dur et très injuste de la F1, où vous pouvez être le meilleur un jour et demain on vous oublie totalement. Et Netflix a mis à l'image tout ça, et je pense que ça a donné justement un côté humain et a intéressé les gens de suivre la F1.
Laurent Rossi, en tant que directeur général d'Alpine, comment est-ce que vous l'avez vécu cette série? Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours très tendre avec les différentes écuries. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, disait Paul Belmondo.
Oui, écoutez, moi je l'ai d'ailleurs aussi regardé après avoir au début pas été forcément très intéressé. Je l'ai regardé parce que j'avais beaucoup d'insistance de gens qui ne s'intéressaient pas à la F1. Et ça m'intriguait en fait. Et j'ai découvert en fait que la série, elle a ça de très bien, qu'elle montre ce qui se passe sous le capot finalement. Elle donne les coulisses de la Formule 1 et elle crée une proximité avec le quotidien de tout le monde puisqu'elle montre que les pilotes sont en souffrance, comme le disait Paul, je crois, peuvent perdre leur siège à la fin de la saison, peuvent disparaître, peuvent voir leur carrière s'arrêter. Des équipes aussi peuvent être menacées de disparaître. Il y a vraiment beaucoup plus de dramaturgie, mais réelle finalement. Hein. Et ça, effectivement, ça a permis de voir que la F1 n'est pas soit qu'un sport mécanique de très haute volée qui demande une expertise pour le comprendre, soit une écrasante domination de Schumacher, puis Vettel, puis Hamilton. Non, derrière tout ça, il y a 20 pilotes, voire plus d'ailleurs, hein, qui sont des athlètes de très haut niveau avec les doutes, les craintes qui les habitent, et des équipes qui essayent de performer pour finir une saison le plus normalement possible, et surtout pour boucler leur budget, puisque ça reste des projets humains et des projets financés. Donc c'est ça que montre cette série et qui est très intéressant.
Alors Philippe Vandel, vous êtes non seulement expert en mécanique, hein, tout à l'heure dans mon bureau, vous m'avez parlé pendant 10 minutes du moteur Renault, justement, mais vous êtes aussi un amateur d'histoires humaines, c'est ça qui vous plaît, ce côté aussi, cet aspect humain, ces grands gaillards qui doutent, qui parfois sont en colère, qui ont des failles comme nous, quoi. Hein.
Oui, alors comme moi je suis un connaisseur, je connaissais ça, je connaissais moins le côté technique, mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans cette série et qui est unique au monde, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que quand Olivier dit, ou je crois que c'est Paul qui disait c'est scénarisé, c'est pas tout à fait scénarisé. C'est que Netflix tourne dans les écuries en temps réel et diffuse à la fin de la saison. Par exemple, Ricardo, qui était chez Red Bull, est passé chez Renault. Mais on voit Christian Horner, le patron de chez Red Bull, en disant « je pense le garder ». Et on voit Ricardo négocier avec Renault et tout sort d'un coup. Donc on voit tous les coups fourrés de chaque écurie. C'est ça qui est totalement extraordinaire. Et là, il faut dire que Netflix a un talent extraordinaire puisqu'ils n'ont jamais trahi la confiance de personne et que tout sort seulement en fin de saison. C'est ça qui est si puissant. Et même si maintenant la première saison de Netflix est passée, on peut la regarder et on est passionné, y compris pour la seconde, y compris pour la troisième.
C'est vrai qu'on a la l'impression qu'il n'y a aucun filtre, il y a des gens qui sont virés comme ça en public sous l'œil des caméras.
Oui, parce qu'il n'y a pas de public. Ils sont virés dans le secret d'un bureau et c'est diffusé 8 mois plus tard.
C'est ça, le public, c'est nous dans le canapé. Julien Febro, qui a eu l'idée de créer cette série?
Alors là, j'en ai aucune idée. Bon. C'est les patrons de la Formule 1, certainement. Il faut expliquer que le producteur de cette série était également un des propriétaires de la Formule 1. Donc, ils étaient chez eux, ils se sont servis chez eux. Moi, ce qui me fait plaisir à travers ce qu'a pu faire Netflix, c'est de voir qu'on était dans le vrai dès 2013 quand la F1 est arrivée sur Canal, puisqu'on a pour mot d'ordre l'immersion et qu'effectivement, dès 2013, on proposait des sujets en immersion pour faire découvrir l'envers du décor et vraiment jouer sur l'aspect humain des choses. Donc effectivement, je pense qu'on était dans le vrai dès cette époque.
Bien, ce renouveau de la F1, on le doit donc en partie à cette série documentaire assez époustouflante, hein, sur Netflix, mais pas seulement, hein, parce que le fait que des pilotes français soient présents sur le circuit, ça joue aussi beaucoup et qu'ils remportent des victoires. Surtout, Pierre Gasly est devenu l'an dernier le 13e Français à remporter une course en Formule 1 au Grand Prix d'Italie à Monza. Ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise sur un podium de F1, une victoire que vous nous avez fait vivre en direct sur Canal+, Julien Febro.
Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Exceptionnel.
Julien Febro se accélère, accélère. Il est passé à la postérité, hein.
Oui, j'en entends souvent en parler et voilà, je suis heureux d'avoir pu accompagner ce moment historique pour le sport français. Au-delà même de la Formule 1, c'est le sport français et c'est la France en général qui a rayonné ce jour-là. Et voilà, content d'avoir pu poser des mots sur cette belle musique.
Alors Pierre Gasly à Monza, c'est la première victoire d'un pilote tricolore depuis 1996 et votre succès, Olivier Panis, dans les rues de Monaco.
Olivier Panis maintenant à 500 mètres du bonheur de gagner son premier Grand Prix. Et quel Grand Prix, celui de Monaco. Allez, voilà, le virage d'Anthony Noguès. Dernière accélération,
c'est fait.
Olivier Panis gagne ici son premier Grand Prix de Monaco.
On a encore des frissons, j'ose pas imaginer pour vous, Olivier Panis, victoire mémorable elle aussi sur une piste détrempée, sur ce circuit de Monaco qui est redoutable, hein, sur lequel on dit qu'il est extrêmement difficile de dépasser ses adversaires. Qu'est-ce qu'on ressent quand on réussit cet exploit ?
Ben, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Déjà, sa première victoire, c'est quelque chose d'important en Formule 1. En plus, à Monaco, comme le disait le patron d'Alpine, c'est un peu le deuxième Grand Prix national, en tout cas, pour nous, donc français. En plus, un Français avec une voiture française. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est le lendemain qu'on commence un peu à réaliser tout ce qui s'est passé. Donc, y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, hein. Beaucoup de choses, parce que pour arriver là, on n'y arrive jamais tout seul en Formule 1, hein. Paul le sait très bien. Moi, j'ai un petit mot pour Paul, parce que je suis sûr que c'est un super pilote. Il n'a jamais eu la voiture pour le démontrer, et on l'a souvent critiqué. Et j'ai trouvé ça très, très, franchement, ça m'a beaucoup fait mal pour lui, parce que c'est vraiment un super pilote. Donc, je voulais faire passer le message que tous ceux qui ont dit du mal de Paul... qu'ils allaient se faire voir, déjà d'une.
Et voilà, après... ça c'est dit, je pense que
et
ça
après,
va vous faire plaisir.
Je t'en connais, Olivier. Voilà.
Et... pourquoi on a dit du mal de vous, Paul Belmondo, c'est pas possible.
Voilà. Et après non, la victoire, savez, mais... ça a changé ma vie, hein. Ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière, et je souhaite à tous les pilotes français et à tous les pilotes en général de pouvoir vivre ce moment-là.
Quand on gagne une victoire, on change immédiatement de statut dans les paddocks, Olivier Panis?
Oui, on change de statut par respect de tout le monde, parce que c'est difficile de gagner un Grand Prix, c'est difficile d'avoir la voiture à un moment donné, et c'est vrai que l'image change, mais après, ce qui compte, c'est le travail est de continuer, et de toute façon, rien n'arrive par hasard, que ça soit pour un constructeur, un pilote, on gagne jamais tout seul. Nous, on est sur le podium, mais derrière nous, il y a des gens qui se battent depuis des années et des années pour arriver à un tel résultat.
Paul Belmondo, Olivier Panis l'a dit, vous aussi, vous auriez pu gagner. Hein.
Oh, je ne sais pas si j'aurais pu gagner en Formule 1. Heureusement pour moi, j'ai gagné des courses dans une autre catégorie. Et je remercie Olivier. Mais c'est vrai que c'était difficile, mais voilà, c'est comme ça. C'est un sport qui est très, très dur, très exigeant. Et malheureusement, on est toujours tributaire du matériel dont on dispose. Et les gens ne se souviennent que des dernières courses que vous avez faites et jamais de ce que vous avez fait avant.
Vous avez quand même fait une belle 9e place, c'est ça, Paul Belmondo?
Oui, j'ai fini 9e en Hongrie. 9e en faisant le 9e temps, en me qualifiant 16e. À l'époque, on était 31 ou 32. Donc déjà, il fallait se qualifier pour faire la course. Mais c'est une autre époque. Vous savez, moi, je suis très heureux. J'ai tenté ma chance. J'ai eu cette chance déjà de faire partie de ces acteurs de la Formule 1. On n'est pas nombreux, hein. Vous savez, c'est comme ceux qui font des finales olympiques. Ils ne sont pas nombreux non plus. Et qu'on a la chance, comme Olivier, de pouvoir démontrer le talent qu'il avait et de gagner le plus beau Grand Prix du monde, qui est Monaco. Moi, je dis toujours, gagner Monaco, c'est comme être champion du monde, hein. Vous êtes au même statut, c'est-à-dire que si demain vous demandez qui a été champion du monde, c'est pas sûr qu'on se souvienne. Si on demande qui a gagné Monaco cette année-là, tout le monde se souvient. Donc voilà, donc c'est la plus belle course et la plus difficile. C'est celle où il faut vraiment faire zéro erreur pendant tout le week-end, parce que ça commence dès le premier jour. Parce que si vous ratez une séance, c'est terminé, vous ne pouvez plus remonter dans la hiérarchie. Et c'est la même chose en course. Donc Olivier, lui, il a gagné la plus dure et la plus difficile des courses.
Bien, dans un instant, la suite de votre débat sur Europe 1, on va parler notamment du rôle capital des sponsors. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Attention, c'est le feu vert. Et dès le départ pour Alain Prost, ce qui vient un petit peu bousculer Ayrton Senna, qui résiste Ayrton Senna.
Alain Prost, Ayrton Senna, la grande époque, suite de votre débat ce soir sur Europe 1 consacré au renouveau de la Formule 1 en France, toujours avec les anciens pilotes Olivier Panis et Paul Belmondo, Julien Febraud, le commentateur de la Formule 1 sur Canal+, Philippe Vandel, passionné de F1, et le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi. Alors justement, je voudrais qu'on parle de Renault, l'écurie française de F1 qui ne s'appelle plus Renault, qui a perdu ses couleurs noires et jaunes. Renault est devenu Alpine et affiche désormais des couleurs bleu, blanc, rouge. Son président Laurent Rossi est donc avec nous. Pourquoi ce changement, Laurent Rossi, et qu'est-ce que ça change concrètement d'être passé de Renault à Alpine?
Eh bien, parce que l'idée était de marier la visibilité, l'incroyable plateforme médiatique qu'est la F1, à la puissance et à l'héritage sportif que représente Alpine, et de justement maximiser finalement le potentiel des deux activités, entre autres, hein, ce qui n'était plus vraiment le cas pour Renault. Le retour sur investissement, si vous voulez, de la F1 pour Renault était un peu difficile à percevoir. Renault était là depuis 45 ans, c'est un constructeur historique. Renault est toujours là d'ailleurs, hein. Renault est derrière Alpine, ça sous-tend Alpine. Mais simplement, on faisait un petit peu partie des meubles. Le plateau, en plus, a changé vers des marques qui ressemblent beaucoup plus à Alpine, ou Alpine ressemble à ces marques. Et donc, il faisait sens pour nous de ramener toutes les activités sport automobile et donc la F1 du groupe Renault sous la bannière Alpine.
Mais Alpine, c'est une marque dont la production reste assez limitée, très limitée même quand on compare à Renault. Vous vouliez donc vraiment la pousser là, hein ?
Exactement. On veut la pousser. On veut utiliser, entre autres, justement la F1, les 500 millions d'auditeurs, spectateurs, les 23 Grands Prix échelonnés sur quasiment toute l'année, ce qui fait que Alpine maintenant s'étale dans tous les journaux, sur toutes les télés, dans toutes les radios.
Et même à la radio,
c'est très bon pour une marque sportive. Voilà. C'est très bon pour une marque sportive.
D'accord. L'idée qu'on a un moteur Renault dans sa Clio comme le vainqueur d'un Grand Prix, bon, même si ce n'est pas le même moteur, manifestement, c'est un argument de vente. Je voudrais qu'on écoute ensemble votre dernière pub ensemble.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech.
Laurent Rossi, la F1, c'est vraiment donc un argument de vente, hein, on vient d'entendre cette pub.
Oui, absolument. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que cet argument, il était dur à expliciter, même s'il existait quelque part dans les années 2000, par exemple, où on voyait difficilement le rapport entre un V10 et un litre d'une Clio. Aujourd'hui, dans votre capture, merci d'ailleurs pour l'écran de publicité, dans votre capture, oui, absolument, dans votre capture ou dans votre F1, vous avez un hybride et le principe de fonctionnement est finalement rigoureusement identique. C'est l'optimisation de l'énergie contenue dans la batterie, soit pour délivrer du couple, c'est-à-dire l'accélération, soit pour délivrer de l'autonomie, donc pour tenir longtemps. C'est rigoureusement le même principe, c'est la gestion de l'énergie contenue dans la batterie. Et que vous ayez donc une fois de plus une Renault équipée d'un e-tech, merci à nouveau, ou une F1 comme Fernando ou Esteban, eh bien, vous avez une technologie similaire. Donc effectivement, c'est un argument de vente, mais qui est réel.
Et Philippe Vandel, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, c'est vraiment grâce à l'expertise en F1 qu'on a aujourd'hui des avancées technologiques dans nos voitures, hein.
Évidemment, par exemple, juste un mot comme ça, c'était l'idée géniale d'Enzo Ferrari. Comme il n'avait pas d'argent pour faire de la publicité quand il faisait sa marque de voiture, il a dit « on va gagner des courses le dimanche et les gens vont acheter les voitures le lundi ». Et là, c'est la même chose. Et quand Renault gagnait, personne n'avait envie d'acheter un Kangoo diesel. Mais là, maintenant, avec Alpine, ça va marcher. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la F1, on croit que c'est des gens qui inventent des choses pour gagner des courses dans leur coin. Pas du tout. C'est par exemple grâce à la technologie F1 qu'il y a des moteurs à l'essence sans plomb. Parce qu'autrefois, le plomb empêchait les capteurs de bien capter les données du moteur. Ils ont réussi à faire de l'essence sans plomb, sans qu'il y ait d'auto-incendie, d'auto-allumage. Et maintenant, c'est dans toutes les voitures. Et plein d'exemples comme ça, pareil.
Alors, un budget pour une écurie comme Alpine, Laurent Rossi, c'est combien par an ? Qu'on a une petite idée ?
On ne partage pas nécessairement toujours ce genre de chiffres.
Vous n'avez pas envie de le dire. Pourtant, vous avez fait de la pub gratuite.
Oui, mais ça vaut un petit peu plus que tout ça. En revanche, ce que vous pouvez savoir, effectivement, c'est que la FIA a encadré les dépenses liées au développement du châssis. Hein. On est à 145 millions d'euros de cost cap, ça s'appelle. Et c'est le même pour tous, pour toutes les équipes. Et ça va changer la donne puisque ça contraint les dépenses. Alors, c'est qu'un périmètre donné du développement de la voiture. C'est pour ça que le budget, il est au-dessus de ça, le budget réel. Il faut tenir en compte des budgets de fonctionnement, de l'IT, du marketing, pour nous, équipe complète du développement du moteur. Ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. C'est 145 millions, c'est ce qu'il faut pour développer la monoplace, on va dire, nue, sans son moteur.
Et alors, la F1 ne pourrait pas exister sans les sponsors. Est-ce que ce regain d'intérêt dont on parle des spectateurs pour la F1, ça a fait revenir des sponsors qui étaient partis, par exemple ? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Laurent Rossi ou Julien Febbraud, peut-être ?
Je laisse Laurent répondre à cette question.
Allez-y, Laurent Rossi.
Oui. Ça fait forcément effectivement revenir des sponsors et ou annonceurs, parce que la F1, effectivement, retrouve un peu de son côté brillant.
De son aura, oui.
Voilà, de son aura. Elle s'est un peu aussi débarrassée de ses scories, les critiques qu'on pouvait émettre qui étaient un petit angle un peu trop macho, hein, si on peut dire. Et finalement, aujourd'hui, la F1, c'est un univers qui attire beaucoup plus. Comme je le disais, en plus, le plateau est assez relevé d'un point de vue marque, avec des Aston Martin, des Mercedes, des Ferrari, bien sûr, des McLaren. Et donc, Alpine est très content de s'asseoir à cette table-là. Et c'est des marques qui peuvent attirer beaucoup plus facilement un grand nombre d'annonceurs. Ouais.
Enfin, et alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que l'enjeu des pilotes aujourd'hui, c'est de venir avec des sponsors. Paul Belmondo, vous avez dû arrêter parce que vous n'aviez plus d'argent, c'est ça?
La première année, oui, en 92, oui, malheureusement, j'avais pas le budget pour faire toute la saison. Et malgré, j'avais terminé tous les Grands Prix auxquels j'avais pris le départ, et jusqu'à une 9e place qui avait été mon dernier Grand Prix, j'avais arrêté parce que j'avais plus de budget.
C'est tellement frustrant,
deuxième année,
ça, j'imagine.
Non, j'ai arrêté parce qu'en fait... Oui, c'est frustrant, mais c'était le jeu, c'était comme ça, ça faisait partie de la donne. Je la connaissais la dernière année, non, j'ai fait toute la saison et sincèrement, je savais que mon niveau de Formule 1, en tout cas ce que j'avais pu faire, n'allait pas m'offrir un volant dans une bonne équipe et gratuitement, il aurait fallu que je paye. Alors j'aurais pu continuer à payer et essayer de trouver des sponsors. Certains le font pendant 5-10 ans. Moi, je partais du principe que voilà. Mais on parle de budget à l'époque qui n'ont strictement rien à voir.
Oui, bien sûr, avec ceux d'aujourd'hui,
avec
évidemment.
Avec ce que ça coûte. avec ceux d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a amené en Formule 1, je pense qu'ils répondraient même pas au téléphone, voire je pense qu'ils ouvriraient même pas l'email, je pense.
Paul Belmondo, on sait que votre papa Jean-Paul est un grand amateur de sport automobile, on l'aime beaucoup ici à Europe 1. Je crois qu'il avait une mythique Ferrari. Hein. Le sport, c'est une affaire de famille. Comment il va, votre papa?
Ben, ça va, écoutez, vous savez, il suit toujours le sport, il suit toujours la Formule 1 et ça va, voilà, c'est quelqu'un maintenant qui profite de la vie avec ses hauts et avec ses bas, mais ça va, il est bien entouré par toute sa famille, ses frères, son frère, sa sœur, nous, voilà. Donc
il va regarder peut-être le Grand Prix de Monaco avec vous dimanche.
Oui, sûrement. Oui.
Bon, merci en tout cas à tous les cinq. Merci beaucoup, on aurait pu poursuivre encore ce débat très longtemps. Je vous conseille la série docu de Netflix, Drive to Survive Formula One. C'est vraiment exceptionnel, vous ne pourrez pas décrocher.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, on va ouvrir les archives d'Europe 1. On sera à Cannes, où en 94, le film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, film culte, a reçu la Palme d'Or. À tout de suite. Et dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Isabelle.
On parle ce soir de l'un de mes films préférés, l'un des films les plus grands de tous les temps.
Everybody be cool, this is a robbery.
Forcément reconnu la musique de Pulp Fiction, film qui était il y a tout juste 27 ans, Angèle, présenté à Cannes.
Avec l'une de ses têtes d'affiche, Pulp Fiction, c'était John Travolta, comme le rappelait Michel Grossure à l'époque sur Europe 1.
John Travolta, et oui, c'est la star du week-end ici à Cannes. John Travolta que nous avons rencontré ce matin, il fait un retour saisissant dans un film d'une grande violence qui sera également présenté ce soir, violence pondérée heureusement par un solide humour, c'est le film du jeune réalisateur américain Quentin Tarantino.
Le soir du combat, tu sentiras peut-être comme une piqûre d'insecte. L'amour propre, ça fait mal, mais ça sert à rien.
John Travolta, d'ailleurs, qui à l'époque était tête d'affiche de films comme Grease, La fièvre du samedi soir, pas de film vraiment indépendant, un peu d'élite. Et c'est ce film, Pulp Fiction, qui a permis de changer sa réputation, de rendre John Travolta un petit peu plus branché. Quentin Tarantino, lui, n'avait jusque-là présenté qu'un film à Cannes, Reservoir Dogs, et encore, il était minuit. Mais Harvey Weinstein, alors encore grand mania du cinéma, croit en les capacités de Quentin Tarantino et distribue Pulp Fiction. Son plan était parfait pour faire saliver, ne proposer qu'une seule séance de visionnage pour les journalistes pendant le festival, comme si c'était un événement.
Et ça l'a été, on imagine. Hein.
Et évidemment, après, les journalistes se sont rués à la conférence de presse, mais il manquait quelqu'un, Bruce Willis, l'un des personnages principaux. Il avait fait trop la fête la veille, mais il a fini par arriver avec 20 minutes de retard.
Et quelques jours après, eh bien, c'est l'ovation pour Quentin Tarantino.
Et oui, le 23 mai 1994, Pulp Fiction reçoit la Palme d'Or de la 47e édition du Festival de Cannes.
La récompense suprême est donc revenue à Pulp Fiction, un polar ironique et baroque du jeune réalisateur Quentin Tarantino.
Et dans la salle, on entend « Quelle daube, mais quelle daube !» tandis qu'ému, Quentin Tarantino et les autres montent sur scène pour récupérer leur dû et faire un discours. « Mes films, dit-il, font exploser les opinions des gens. »
Ah ben non, c'est surtout pas une daube. Et d'ailleurs, le film, Angèle, fait un carton. Hein.
Et oui, en France, le film fait presque 3 millions d'entrées. Et dans le monde, Pulp Fiction fait 215 millions de dollars de recettes. Lui qui a coûté 25 fois moins, parce qu'il a coûté environ 9 millions d'euros.
Allez, et puis il y a cette chanson, bien sûr.
Évidemment, cette chanson Miss Shirley est initialement une chanson grecque populaire folklorique qui m'a été popularisée en 1963 par Dick Dale. Puis, grâce au succès de Pulp Fiction, depuis de nombreux artistes se la sont appropriés. Les Beach Boys, Rachita et plus récemment, les Black Eyed Peas avec leur tube Pump It qui était sorti en 2006.
Moi, je sais quel film je vais revoir ce week-end grâce à vous, Angèle. Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce et puis place à la musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir, Isabelle.
Et c'est quoi le programme ce soir ?
Eh bien, nous allons parler des vieilles charrues. La programmation a été révélée ce matin en avant-première sur Europe 1. Et on y retrouvera notamment Benjamin Biolay. La mienne est comme ça. Biolay, Catherine Ringer, Woodkid, Stéphane Echer, Philippe Catherine, Iseult, Yel, Pomme. Les vieilles charrues All Stars pour cette année 2021. Et c'est Jérôme Tréorel, le patron du festival, qui va venir nous en parler.
Et vous le saluez pour moi, s'il vous plaît.
Avec plaisir, la bise, enfin le coude.
Oui, allez, le coude. Merci, Émilie, belle émission. Merci, belle Isabelle. Soirée. Je vous retrouve lundi dès 18h aux côtés de Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.